Aujourd'hui, la prédication, je vais la baser sur une histoire fictive. Si jamais vous entendez un prénom qui est le vôtre, en tout cas, ne vous sentez pas visé, vous n'êtes pas concerné, ça reste vraiment fictif. Et pensons à un repas de Noël qui s'est tenu hier dans une famille pas du tout croyante. Et c'est Karine qui nous raconte cette histoire, même si ça sera une voix d'homme. Considérez, c'est Karine qui écrit à son amie Émilie, qui est partie vivre à l'étranger il y a cela 3 ans. Alors Karine écrit: Cette année encore, Noël a été très particulier à cause du coronavirus, mais c'était moins pire. Si l'année dernière, la famille n'a pas pu se rassembler, cette année, nous avons eu quelques personnes autour de la table. En plus de papa, maman, Chloé, elle a bien grandi, elle a 10 ans maintenant. Et Thomas qui est à l'université, il y avait aussi Grace, un de ses amis très sympa. Il y avait aussi mon oncle Pascal, sa femme Noria et leurs 3 enfants, Ami, Alfred et Nicolas. J'étais content de les retrouver. Et comme l'année dernière déjà, le coronavirus s'est invité à table. On en a parlé, il était question de troisième, quatrième dose, voire plus. On se demandait si l'année dernière on en parlera encore. Bref. Il nous a pris beaucoup de temps. Bon, la fête a quand même continué. Elle battait son plein, nous étions à table et on entendait le bruit strident des couteaux. Et là, les enfants devaient faire. Bon, telle une bataille de gladiateurs. Alors, il faut avoir beaucoup d'imagination, hein, des couteaux qui font du bruit comme des épées. Voilà. On riait en ressassant les souvenirs de l'année dernière, des années passées, tout le monde était content, enfin presque. Tout le monde sauf Chloé, qui faisait la tête juste à ma droite. Je la voyais avec sa fourchette, elle tourbillonnait son repas sans le mettre en bouche. Elle avait l'air vraiment triste. Elle n'a pas reçu le cadeau qu'elle attendait, qu'elle avait demandé au Père Noël. Elle était très, très, très déçue de ce qu'elle avait reçu. Mais il faut dire qui n'a pas été du tout sage tout au long de l'année. Et papa et maman lui ont reproché plein de choses tout au long de l'année. Et tout à coup, je l'ai vu se lever brusquement et bondir sa fourchette en l'air comme une épée en disant: Pourquoi fête-t-on Noël d'ailleurs? Il y a eu des éclats de rire et maman qui était à sa droite lui a répondu: Chloé, c'est l'occasion de se rassembler en famille avec les personnes qu'on aime et de passer des bons moments ensemble dont tu te souviendras toute ta vie. Je n'aime pas Noël, a rétorqué Chloé. C'est alors que Grace, le copain de Thomas, a pris la parole. Noël, chez moi, c'est aussi l'occasion de se rassembler avec la famille. Mais avant tout, c'est le moment de se rappeler de la naissance de Jésus-Christ. Quand j'étais plus jeune, je n'avais pas non plus compris le sens de Noël. J'attendais juste le moment où je me précipitais sur le sapin pour découvrir les cadeaux qui y étaient. Un jour, ça a été le déclic. Il y avait beaucoup de questions existentielles dans ma tête. Pourquoi la vie sur Terre? Quelle différence y a-t-il entre une personne qui vit 99 ans et une autre qui en vivra 33? Et là, papa a répondu ironiquement, bah, celle qui a vécu plus longtemps en a le plus profité. Alors, Grace répond, certes, on peut dire que celle qui a vécu plus longtemps en a le plus profité. Mais devant la mort, que vaut sa longue vie? Une autre question me taraudait, me venait à l'esprit. Devant la mort, quelle différence y a-t-il entre un riche et un pauvre? Et cette fois-ci, c'est l'oncle Pascal qui s'y est collé. Il a répondu, le riche aura un plus beau cercueil et des amis, enfin des connaissances pour ses obsèques. Certes, le riche aura plus d'honneur pour ses obsèques. Mais qu'est-ce que donc tout ça devant la mort? Riche ou pauvre, le souvenir de leur vie riche ou de pauvre s'évapore-t-il pas comme la fumée qui se dissipe et disparaît? Le riche ne se souviendra pas des mets succulents, des voyages entrepris dans le monde entier. Quant au pauvre, il oubliera ses journées de disette, ses fins de mois difficiles. C'est alors que tout commençait à s'emboîter dans ma tête, dit Grace. Le puzzle a été reconstitué quand j'ai remis Dieu au centre de la création. Je crois que le monde est l'œuvre de la création de Dieu qui existait avant le monde. C'est lui qui a placé toutes choses, qui a mis toutes choses à sa place, dans le corps humain par exemple. Et regardez la beauté, la perfection de votre corps. Il m'a regardé et il m'a dit, « Karine, dans le ventre de ta mère, tu étais au départ qu'une petite masse. Mais aujourd'hui, tu es grande. Tu as des dents qui peuvent broyer ce poulet aujourd'hui. Sais-tu que selon les scientifiques, les dents humaines sont aussi fortes que les dents de requin, à votre avis ?» Vrai. Ami s'est écrié, « Aussi fortes que les dents de requin ?» Ceci est démontré par les résultats d'une nouvelle étude menée par des scientifiques allemands, des spécialistes de l'université de Duisburg. J'ai bien prononcé ? Parce qu'on a une étudiante allemande avec nous. Des spécialistes de l'université de Duisburg ont analysé la microstructure des dents humaines et du requin. On sait que l'émail des dents humaines comprend l'hydroxylopatite, ne me demandez pas ce que c'est, minéral naturel. Il a été constaté que les cristaux de ce métal situés dans les dents humaines sont collés ensemble par des protéines organiques et ont une structure unique. Ils empêchent la propagation des micro-fissures qui se trouvent dans la couche d'émail à la surface de la dent. C'est le secret principal de la force de nos dents, croient les scientifiques. Alors, ça ne vient pas de moi. Mais tout ça, est-ce un hasard? La Bible, qui est pour les chrétiens la parole de Dieu, raconte brièvement dans le premier livre, qui est la Genèse, comment Dieu a créé le monde et combien ce qu'il a fait était beau et parfait. Il a aussi créé l'homme et la femme pour avoir une étroite relation avec lui. Tout était harmonieux. Aucune mauvaise chose n'existait jusqu'au jour où le premier homme, Adam et sa femme, Ève, ont désobéi à Dieu, le Créateur. C'est ainsi que les mauvaises choses sont rentrées dans le monde. La jalousie, la cupidité, l'orgueil, le meurtre, tout ce que vous voulez de mauvais. Et tous les hommes qui ont succédé sur la terre étaient marqués par ce caractère en totale opposition avec ce que Dieu avait voulu. Or, Dieu n'a aucune mauvaise chose en lui. Il est saint. Il ne peut pas cohabiter avec ce qui est mal. Dieu voulait et veut que les gens changent et reviennent sur le droit chemin afin d'avoir une relation avec lui. C'est pourquoi il n'a jamais cessé de leur adresser des messagers pour leur rappeler ses attentes, ses règles, les avertir. Il avait aussi annoncé la venue d'un sauveur, Jésus-Christ, une personne bien différente de toutes celles qui étaient venues auparavant. La naissance de Jésus a été prédite longtemps à l'avance, avec des détails époustouflants. Par exemple, l'un des messagers de Dieu a prédit 7 siècles avant que Jésus ne naisse, qu'il naîtra d'une vierge. C'est Ésaïe, au chapitre 7, le verset 14. Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. Dans un autre chapitre de ce livre, le prophète Ésaïe a donné des indices sur l'identité de ce sauveur et aussi ses attributs. Ésaïe 9, le verset 5 à 6. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le maître de l'univers. Sa naissance exceptionnelle, sa mort, ont été prédites bien longtemps à l'avance. Et tout s'est déroulé exactement comme Dieu l'avait prédit. Et Jésus est né à Bethléem, dans une étable, pas dans un palais, d'une vierge nommée Marie. Je pense que tous ceux qui ont appris la naissance de cet enfant ne savait vraiment pas ce que cela signifiait pour l'humanité, mais aussi quelle était la mission de cet enfant. Comment il accomplirait cette mission, même si, une fois de plus, tout était écrit par Dieu. Il est sûr et certain que même Marie n'avait pas tout compris de la mission de cet enfant. Peut-être que des siècles après la venue de Jésus, et bien que nous connaissions le fin mot de l'histoire, nous aussi, comme ses contemporains, nous nous méconnaissons qui est Jésus. Quel était l'objectif de sa mission? Et l'accomplissement, et ce qui implique l'accomplissement de sa mission. Sa mission est résumée dans une phrase dans la Bible. Dans ses mémoires du temps passé aux côtés de Jésus, Jean, son disciple, dit ceci au troisième chapitre, Jean 3, le verset 16. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. L'amour se mesure à ce qu'il donne, et Dieu a donné son propre Fils, ce qu'il avait de plus précieux, afin de permettre à tous ceux qui lui feront confiance d'avoir une relation étroite avec lui. Jésus était parfait, car il est le Fils de Dieu. Il est Dieu. Il a accompli beaucoup de miracles. Il a surtout eu des enseignements qui décoiffent, qui décapent, avec des paroles qui captivent. Il a dit, par exemple, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'homme. Et sur ça, Chloé dit, comment une parole peut nourrir quelqu'un? J'aime bien mes hamburgers, moi, pour me nourrir. Et grâce qui rétorque, je vous laisse réfléchir là-dessus. Nous avons été créés pour une vie éternelle, une vie sans fin, et pour avoir une relation avec Dieu. Voilà ce que Dieu a fait à Noël. Il nous a envoyé un sauveur afin de nous donner d'être réconciliés, d'être en paix, d'être en relation avec lui. Depuis, dit Grâce, j'ai mieux compris le sens de mon prénom Grâce. Je n'ai rien fait de spécial, mais je bénéficie des bienfaits de Jésus, de Dieu, car Jésus a pris sur lui la condamnation que mériteraient toutes les mauvaises choses que j'ai faites. Il m'a sauvé, il me donne une nouvelle vie. James Parker, un auteur contemporain d'un livre que notre Église encourage aux membres et à ceux qui font compte de l'Église, en tout cas de lire, dit ceci dans son livre « Connaître Dieu ». La connaissance qu'on a de Dieu, ou la connaissance que nous avons de Dieu, détermina notre façon. Je recommence. La connaissance que nous avons de Dieu déterminera de façon décisive notre manière de vivre. La connaissance que nous avons de Dieu déterminera de façon décisive notre manière de vivre. J'ai compris que je faisais fausse route si j'essayais de vivre dans le monde sans connaître celui qui l'a créé et qui en est le maître. La connaissance que nous avons de Dieu déterminera de façon décisive notre manière de vivre. Et j'ai compris que je faisais fausse route si j'essayais de vivre dans le monde sans connaître celui qui l'a créé et qui en est maître. Voilà l'histoire de Noël. Et si vous voulez en connaître davantage, on peut en discuter. Et je vous conseille la lecture d'un livre qui est derrière. Désolé. C'est le livre « Noël, peut-on y croire ?» Voilà. Je vous invite vraiment à c'est toujours Grâce qui continue à parler, à lire ce livre qui nous raconte, qui nous dit si historiquement nous pouvons croire en l'histoire de Noël. Ah, voilà, merci mon assistante et ma fille et ma femme. Voilà le livre. Noël, peut-on y croire historiquement? Ensuite, on a continué le repas et la fête. Ça semblait très intéressant ce qu'a dit Grâce. Karine demande alors à son amie, « Et toi, Qu'en penses-tu? Comment as-tu fêté Noël cette année? Que penses-tu de ce qu'a dit Grâce? L'histoire se termine sans que l'on sache ce qu'il adviendra de cette famille fictive, des participants au repas de ce repas de Noël. Ont-ils saisi le message de l'Évangile? On ne sait pas. Vont-ils chercher à en connaître davantage? On ne sait pas non plus. Mais pour chacun de nous dans cette salle, nous avons un choix et une décision à prendre. Croire en Jésus ou refuser d'y croire. Il y en a qui ont déjà fait ce choix de croire en Jésus et de lui confier leur vie et de lui dire, Seigneur Jésus, je reconnais que tu es venu un jour sur terre, que tu es mort à la croix et que tu es ressuscité, et qu'en mettant ma foi en toi, moi aussi, je vis par toi. Qu'en mettant ma foi en toi, moi aussi, je suis enfant de Dieu et je bénéficie de tous les privilèges qui sont accordés à tes enfants. Et je sais qu'un jour, je te verrai face à face et je vivrai avec toi pour l'éternité. Nous avons été créés pour vivre l'éternité, soit avec Dieu, soit sans Dieu. Et à ceux qui n'ont pas encore fait ce choix, que l'on soit plus jeune ou très âgé, la porte est toujours ouverte et cet accès à Dieu est toujours possible parce que Christ est vivant. Et ce qu'il a accompli, il l'a accompli pour moi, pour vous, pour nous tous. Et tout homme qui accepte Jésus comme son Seigneur et son Sauveur reçoit la vie éternelle. Tous les peuples de la terre sont appelés à rendre gloire à Dieu le Père, qui est plein d'amour pour eux, à adorer Jésus-Christ le Sauveur. La lumière du monde venue pour éclairer les hommes, celui qui est les hommes qui étaient dans les ténèbres. Et les hommes sont appelés aussi à adorer le Saint-Esprit de Dieu, qui est donné à tous ceux qui croient en Jésus pour vivre à son image. Oui, gloire au roi des rois à tout jamais. Seigneur, nous voulons reconnaître ta grandeur dans notre vie et la grandeur dans ce monde, Seigneur. Nous pouvons contester ta grandeur. Nous voulons aussi, Seigneur, reconnaître et être reconnaissant, Seigneur, pour ton amour. Oui, tu as envoyé Jésus-Christ, non pas pour nous juger, nous condamner, mais pour nous sauver. À tous ceux qui croient en Jésus, tu donnes de devenir enfants de Dieu. Et cette grâce, Seigneur, imméritée, nous voulons, Seigneur, nous l'acclamer, nous voulons la reconnaître et la chanter toute notre vie, au Seigneur. Nous voulons surtout, au Seigneur, qu'elle se dissipe partout dans le monde, cette bonne nouvelle au Seigneur. Qu'elle atteigne au Seigneur les oreilles, les cœurs des personnes qui ne t'ont pas encore accepté au Seigneur. Nos enfants parmi nous au Seigneur, les jeunes parmi nous, les plus âgés au Seigneur, tous ceux qui aujourd'hui, Seigneur, ne t'ont pas encore reconnu comme leur Seigneur ou Sauveur. Nous voulons, Seigneur, que ce cri de joie des anges paix sur la terre aux hommes qu'ils aiment, soit aussi, Seigneur, leur partage au Père. Nous prions, Seigneur, pour que tu puisses ouvrir l'intelligence, que tu puisses ouvrir les yeux au Seigneur, que tu puisses faire trembler au Seigneur le cœur incrédule, mais que tu puisses, au Seigneur, mettre ce cœur d'enfant qui est prompt à accepter ce que son Père lui dit. Seigneur, donne-nous à tous d'être enfants en tes mains, à reconnaître, Seigneur, tes valeurs, à reconnaître ta parole, à reconnaître ta personne au Seigneur et à t'obéir, à t'écouter pour devenir jour après jour semblable à Jésus-Christ, notre modèle et notre Seigneur. En ton nom, Jésus. Amen.